Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous de Radio Foot International sur la Radio Mondiale. Aujourd'hui, au programme de cette émission, 14 mois et puis s'en va déjà, c'est Ronald Koeman limogé cette nuit après une nouvelle défaite du Barça. L'entraîneur néerlandais quitte un club Blaugrana qui va bien mal, mais il laisse en héritage de jeunes joueurs mis en valeur depuis le début de saison. D'autres grands se sont pris les pieds dans la pelouse la nuit dernière. Le Bayern de Munich, la Juventus de Turin ou encore Manchester City ont passé une bien mauvaise soirée, éliminés ou battus. Y a-t-il une explication ? Nice OM pas 2, vainqueur dans cette confrontation rejouée 2 mois après les incidents du stade de la Riviera. Il manque l'allant du public pour encourager ces deux équipes peu motivées. Qui a perdu, qui a gagné ? Un invité dans Radio Foot International. Bonjour Yacine Hamned.
Bonjour à tous.
Merci beaucoup d'être là. Vous êtes un éducateur, courageux éducateur, on va le voir, dans le football français chez les jeunes. Vous êtes directeur technique actuellement au petit club, comme vous dites vous-même, de Cachan. Mais vous venez de dresser dans un livre qui s'appelle « Les hors-jeux du football français » publié chez Talentsport un constat un peu inquiétant du football français, même si vous proposez des solutions, il y en a donc.
Il y en a, c'est pour ça. Si on l'écrit, c'est qu'on a un peu d'espoir encore.
D'accord. Le foot, notamment, pourrait être sauvé par les valeurs. Excusez-moi la contre-pétrie. Le foot pourrait être sauvé par les valeurs du sport, tout simplement, peut-être. C'est ce que nous verrons avec vous en fin d'émission. Nos invités aussi qui sont là, qui ont déjà beaucoup parlé avant cette émission, ils ont évidemment beaucoup de choses à se dire puisqu'ils viennent du terrain tous les deux. Bonjour Carlos Bianchi et Marc Libra.
Bonjour à tous, ça me fait plaisir de trouver Marc.
Bonjour à toutes et à tous, plaisir réciproque. Mais Annie, il ne faut pas le dire, ça reste dans le vestiaire. Ça,
un Marseillais, un Parisien, on a des choses à dire.
Carlos, il ne faut pas le dire ça.
Il est surtout rémois. Il est rémois surtout, Carlos Bianchi. C'est par là qu'il est entré en France, c'est le plus important. Bonjour Chérif Guémour.
Bonjour Annie, bonjour à tous et à toutes.
Vous aussi, vous aurez plein de choses à dire dans cette émission. David Finzel et Pierre Guérin m'ont aidé à préparer l'émission. Alice Ménard est à la réalisation. Radio Foot, c'est parti.
Recibe Busquets, apareció sigiloso el Chocota que pone a correr a Falcao. Falcao, 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 Falcao se detiene. Falcao.
Seulement bonjour et fais gaffe à l'amour.
Et oui, c'est fini. Ronald Koeman n'est plus l'entraîneur du FC Barcelone. Cette nuit, après une nouvelle défaite des Blaugrana sur la pelouse du Rayo Vallecano, alors vous l'avez entendu, c'est un but du Colombien, toujours là, le buteur Radamel Falcao. Eh bien, son but qui a signé cette défaite du FC Barcelone, et surtout 3 jours après avoir perdu le Clasico au Camp Nou. L'entraîneur néerlandais de 58 ans a donc été remercié par les dirigeants du club catalan. Ses derniers mots semblaient déjà conscient de l'issue qu'il attendait en rentrant à Barcelone. Une consoeur espagnole lui a demandé si ce résultat le condamnait.
Je ne sais pas. Notre défaite n'est pas une question d'attitude. Elle n'est pas liée à la façon dont nous avons joué. Nous n'avons pas affronté une équipe qui s'est procuré beaucoup d'occasions. Il nous manque des buts, il faut en mettre. Je ne peux rien dire d'autre. C'est sûr, nous n'allons pas bien. L'équipe a perdu son équilibre. Nous avons perdu des joueurs qui sont très efficaces devant le but.
Alors lui, Ronald Koeman, qui avait été une idole des Blaugrana, notamment en 1992, il avait signé cette victoire, et la première victoire surtout du FC Barcelone en Coupe des Champions. Alors, il avait surtout aussi préféré abandonner son poste de sélectionneur des Pays-Bas pour rejoindre le banc du Barça. C'était à l'été 2020, il n'y a pas si longtemps. Est-ce qu'il a été injustement remercié, selon vous, Chérif Guémour?
Il y a une responsabilité partagée. De toute façon, il n'a pas réussi à faire repartir cette équipe. Ça, c'est incontestable. Après, les joueurs, ils sont ce qu'ils sont, à la fois sur ce qu'ils donnent et sur ce qu'ils représentent. C'est pas une grande équipe du Barça. Alors, il y a des éléments prometteurs, on va en parler après. C'est pas une grande équipe du Barça. Dans l'attitude, j'ai vu un peu, mais ça date pas d'hier soir, que par moment, les joueurs ne sont pas concernés. Et puis surtout,
il y a des stats qui disent que c'est l'équipe, je crois, qui tacle le moins et qui court le moins.
Et c'est surtout,
en ce moment, en Liga.
Je l'avais dit la semaine dernière en Ligue des Champions, le porteur du ballon n'a plus toutes les possibilités, toutes les solutions autour de lui, des joueurs qui bougent. C'est une équipe où globalement le collectif n'est pas prêt à se mettre minable, comme on dit, pour le copain. Et à chaque fois que vous voyez le porteur du ballon, ce qui faisait la force du Barça, c'était ça, le porteur du ballon avec des solutions multiples. Là, je vois le porteur du ballon, il hésite un peu, il va jouer un peu latéral, un peu en retrait, ça bouge pas tellement devant. Donc Koeman est, en définitive, il est responsable de ça. Même si, une fois de plus, les joueurs ont leur responsabilité. Mais ça ne pouvait plus durer, de toute façon.
Marc Koeman, c'était aussi l'entraîneur qui arrive à l'été 2020 au moment d'un premier psychodrame avec Messi, quand Messi dit « je ne veux pas rester ».
Et finalement, qu'il reste.
Qui reste et qui fait le travail, parce que le FC Barcelone avait terminé deuxième de Liga, finalement, malgré ses problèmes l'an dernier. Et c'est aussi l'entraîneur qui l'aura vu partir et il s'est retrouvé avec un effectif. Alors en plus, il n'y avait plus Griezmann. C'était un effectif. Il parle de déséquilibre, en tout cas amoindri.
Je pense qu'on peut prendre Koeman à l'été 2020, on peut prendre n'importe quel entraîneur. En ayant le plus grand respect pour tous les entraîneurs, quand vous avez vécu que 2015, vous perdez deux monuments qui vous font votre équipe et que vous n'arrivez pas à vous dire c'est la fin d'un cycle, Messi me sauve en 2016, Messi me sauve en 2017, en 2018, bon, je vais pas faire l'histoire. Et puis l'année dernière, qu'est-ce qu'il vous fait? Messi vous sauve quand il doit vous sauver. Mais là, son discours, oui, mais il nous manque le joueur qui est capable de... Messi, il est plus là, les amis. C'est pas avec Depay, avec Dest, avec les joueurs que... Et Agüero, que tu vas te dire, ben, on va relancer le Barça. Donc, à un moment donné, les dirigeants n'ont pas fait ce qu'il fallait, peut-être en 2017, parce que quand ils perdent Xavi, Iniesta, qui vous savez qu'ils partent, vous conservez Messi, là, vous devez construire. Ils ont recruté Dembélé, des joueurs énormes.
Ils se sont trompés.
Ils se sont trompés.
Complètement.
Ils se sont trompés partout.
Ça fait longtemps que ce club...
Mais ils se sont trompés. Donc, aujourd'hui, après, parce que c'était à l'époque, Luis Enrique, c'était le triplé en 2015, où ils avaient fait le triplé, on se dit, ils vont marcher. Ben non, finalement, on se rend compte que ça tient sur des joueurs qui sont emblématiques et historiques. Donc, à l'arrivée, cette équipe-là, malheureusement, aujourd'hui, on s'en prend à Koeman, mais c'est surtout les dirigeants qui n'ont pas fait ce qu'il fallait à un moment donné. Pour moi, c'était ça, la clé, trouver les joueurs qui, malheureusement, auraient pu rendre ce Barça plus grand, et c'est pas le cas.
Son bilan chiffré n'est pas évidemment terrible, mais surtout pour la saison. 4 victoires en 10 matchs. Et le Barça est 9e. En plus, il est à 6 points du Real Madrid. Bon, et avec un match en retard, donc c'est peut-être pas énorme. Mais en 67 matchs dirigés par Koeman, c'est 40 victoires pour 16 défaites. Ils étaient donc 2e en Liga. Ils avaient aussi gagné la Copa del Rey l'année dernière. Mais il y a quand même eu des défaites qui font tâche. Je pense à celle récente de Ligue des Champions à Lisbonne face au Benfica et chez eux face au Bayern. Et puis les 3 claques consécutives au Classico. Est-ce que c'est que de la faute du sélectionneur, de l'entraîneur,
jamais c'est
Carlos.
La faute à une personne.
C'est un
jamais.
Ensemble.
C'est un ensemble. Les joueurs, nous, quand on était joueurs, je me rappelle qu'un jour, je l'ai demandé à l'entraîneur de ne pas s'en aller, parce que je lui disais que ce n'était pas sa faute que nous, on jouait mal. Parce que les joueurs de football, ils savent très bien quand ils jouent bien et quand ils jouent mal. Ils ne se cachent pas. Et pour moi, ce n'est pas la faute seulement à Koeman. Je pense que les joueurs, ils ont une très grosse responsabilité. Oui. Ceux qui sont arrivés et ceux qu'ils étaient. Peut-être que ceux qu'ils étaient, ils commencent à avoir de l'âge déjà.
Oui, Piqué, Busquets, Jordi Alba, tout ça.
Moi, je pense que l'agonie de Barcelone, il a commencé le jour que Xavi, il est parti.
Le premier
qui est parti, c'était Xavi. Là, il a commencé une lente agonie, et après, il est parti Iniesta, et maintenant, il est parti Messi, ciao.
Neymar, entre-temps, est parti.
C'est vrai, Neymar aussi.
Neymar, quand il est parti, ils l'ont pas tellement,
ils l'ont jamais digéré, Carlos.
Ils n'ont pas digéré les autres, parce qu'ils savent qu'il faisait le jeu, c'était Xavi et Iniesta.
Oui, sans doute.
Et c'est lui qui finissait les matchs, et c'était Messi.
Et on s'est rendu compte, c'est maintenant qu'on se rend compte qu'ils avaient une génération exceptionnelle. Mmh. Quand on regardait, on était un peu blasé, on disait, ouais, ça joue bien, bah, c'est la Masia, c'est une belle équipe. C'est... Et maintenant, on se rend compte que c'était pas une belle équipe, c'était une équipe
parce qu'ils
extraordinaire.
Mais ils se sont retrouvés une demi-douzaine des joueurs.
Ouais.
Parce qu'il faut penser que Piqué, c'est un grand défenseur aussi, hein. Mmh. Busquets est un grand milieu terrain.
Absolument.
C'est champion du monde. Mais
d'ailleurs,
Europe,
d'ailleurs on le voit avec l'équipe d'Espagne, Puyol. Il est toujours au niveau.
Il est toujours au niveau. Ouais.
C'est le capitaine.
Oui.
C'est pour ça que je dis. Alors, quand tu se sont trouvés une demi-douzaine de joueurs qui sont sortis tous de la Masia, et ils se sont dit, bon, on y va, on joue tous le même jeu.
Avant de parler des jeunes, je voulais juste vous demander quelque chose, Sheriff Guémour. Il a essayé de s'appuyer sur des joueurs aussi qui pourraient peut-être l'aider, Koeman, et on pense à Depay. Mm-hmm. On pense aussi à De Jong, qu'il est allé chercher à Séville. Ouais. Donc ce sont des Hollandais, ouais. Et peut-être qu'il s'est dit que ça ferait masse quoi, autour de lui.
Ouais. Il y a deux choses. Ce qu'il a condamné, c'est d'abord, on lui a jamais pardonné, on lui pardonnera jamais le départ de Suarez, déjà. En plus, quand Suarez vient marquer contre le...
Est-ce que c'est lui qui le décide ou est-ce que c'est les dirigeants du Barça?
On a mis ça sur le dos de Koeman.
Sur son compte,
voilà,
effectivement.
On a mis ça. Et en même temps, il est parti ensuite aller chercher Luc de Jong, qui était pas mauvais au FC Séville. Moi, j'aimais bien, mais il n'y arrive pas. Bon, il n'y arrive pas, c'est comme ça. Il y a la crise Griezmann. Est-ce que c'est de la faute de Koeman? Moi, je crois pas. Après, il y a le départ de Messi, on va pas en revenir. Donc, il y a tout un maelstrom et tout. Pour en venir au joueur qu'il a fait venir. Depay ne sera jamais un taulier. C'est un leader, ça peut être un leader d'attaque, mais c'est pas non plus un joueur, c'est pas un joueur extraordinaire. Il est irrégulier, même s'il se donne corps et âme. Mm-hmm. On n'a pas grand chose à lui reprocher. Et ensuite, il y a Luc De Jong, Depay et tout. Puis il y a l'autre De Jong, par contre, Frankie De Jong, mais il arrive avant. Il y a peut-être, c'est une bonne remarque, peut-être qu'on l'a aussi soupçonné de vouloir refaire un peu ce qu'on avait reproché à Van Gaal il y a 20 ans. Mm-hmm. C'est faire l'Ajax de Barcelone. C'est-à-dire en ramenant, 9 néerlandais, je pense. Donc, ça a joué aussi. Ça a joué aussi. Et n'oublions pas que Dest, il vient de l'Ajax. C'est un Américain, mais il vient de l'Ajax. Ouais. Donc, il y a tout un truc qui à l'arrivée, ça s'est accumulé. Puis bon, à l'arrivée. Alors après, il aurait certainement sauté avant, mais comme il y avait la question des indemnités pour un club qui a plus un sou en caisse.
Ah oui, parce que ça peut tourner autour de plus de 10 millions d'euros.
10, 12 millions, on parle et tout. Ouais. Mais Xavi, s'il vient, il viendra pas gratuitement non plus.
Il y aura une conférence de presse demain matin, en saura un peu plus sur le futur de cette équipe. Moi, je voudrais vous demander, Yacine Amenet, parce que j'imagine que vous avez un regard là-dessus. Il a essayé de promouvoir et de s'appuyer sur des jeunes qui viennent de la Masia, le fameux réservoir finalement qu'on a tellement regardé auparavant. Il y a Mingueza qui l'avait lancé, mais on peut voir ce jeune Gavi là qui est incroyable. Puig aussi. Il y a Pedri.
Il n'a pas récupéré Pedri, c'est dommage.
Mais oui.
Parce qu'il a fait les JO, l'Euro, bon, c'est bon, il est
crampé. Ansu Fati aussi, je crois qu'il sort de là, toute façon. Ouais. Est-ce que, en tout cas, il leur a donné leur chance et est-ce que c'est eux qui peuvent, même très jeunes, avec des épaules un peu fragiles, mais est-ce que c'est le futur du Barça, c'est eux? Vu que le club n'a pas d'argent pour théoriquement racheter.
Ça peut être le futur. Le problème, c'est que je pense que le Barça s'est beaucoup trompé dans son recrutement. Panique, parce que en fait, il fallait combler le départ de Neymar. Donc, on a pris à chaque fois des joueurs en plus avec des gros transferts et on s'est trompé. Parce que le Barça, c'est quand même un des seuls clubs au monde qui a un vrai ADN de jeu. Donc, si vous mettez les jeunes, il faut que les autres autour parlent le même football. Et si vous prenez des joueurs qui parlent pas le même football, vous pouvez mettre les meilleurs jeunes du monde, 3 ou 4, ils seront aussi perdus que les autres. Mais je pense surtout que la planche était déjà savonnée, puisqu'il y a eu un changement de président en cours d'année dernière, et que ce président-là, de toute façon, ne voulait pas le garder. Donc on attendait finalement l'erreur, parce qu'hier, Depay
il y a 2-3 jours, après le Classico, il l'avait conforté. Donc bon, c'est...
Oui, après, quand il conforte, en général, c'est mauvais signe. Mais...
oui, c'est vrai.
Si Depay marque son pénalty hier, le Barça perd pas, qu'est-ce qu'ils font? Ils retardent l'échéance. Mais on savait que c'était inéluctable. De toute façon, voilà, ce qui est bien, c'est que Koeman, en tout cas, a lancé des jeunes, et on voit que c'est des jeunes de très bon niveau. Maintenant, il faut que le Barça se dise, et je pense que c'est le plus dur à entendre aujourd'hui dans ces grands clubs-là, c'est, entre guillemets, une année de transition où on va relancer nos jeunes, peut-être plus, avec l'ADN Barça du jeu. Et tant pis, entre guillemets, pour les résultats.
On va pas en Ligue des Champions l'année prochaine.
Voilà, le problème, c'est qu'ils veulent pas entendre ça, parce que comme ils sont en problème, ils ont des problèmes d'argent.
Ils vont le faire avant, déjà.
Voilà, exactement.
Oui, parce qu'une année de transition, mais on a l'impression que ça fait plusieurs années de transition.
Oui, mais parce qu'ils ont pas voulu se rendre compte qu'ils étaient en année de transition, en pensant qu'avoir acheté des joueurs à 120 ou 130 millions, ça allait,
cacher la
tout
misère.
Ça, voilà. Donc ils se sont trompés, et aujourd'hui, je dis qu'ils vont le payer cette année, parce que un changement d'entraîneur, même en cours de saison, avec ce groupe-là, Mais les joueurs, ça resteront les mêmes. Ils resteront les mêmes.
Ceci dit, Yacine, l'équipe type, le 11 type, il est pas mal non plus.
Oui, non, bien sûr, bien sûr. Après,
vous,
il est pas compétitif, pas assez.
On a beau parler de cette jeune génération qui est prometteuse, mais il faut pas oublier que toutes ces générations, elles ont besoin de guides et de patrons. Je prends mon exemple. Quand moi, j'attaque l'Olympique de Marseille, devant moi, j'ai Jean-Pierre Papin. J'ai Alain Bokchik, j'ai Rudy Voller, j'ai Abedi Pelé. Derrière, j'ai Stojkovic, Francescoli, Sauzé, enfin Durand, enfin je vous en passe. C'est plus facile d'apprendre son métier. Quand vous mettez 7-8 gamins comme ça, vous les mettez dans le stade. Tiens, démerde-toi. Ah mais il est prometteur. Mais prometteur de quoi? Mais s'il n'y a pas de tuteur à côté, de grands joueurs, parce que là, aujourd'hui, est-ce qu'Aguero va être porteur pour les attaquants de Barcelone? Est-ce que Depay va être porteur? Peut-être pour les soirées. Je suis désolé, je suis méchant. Peut-être pour les soirées, mais pas pour le football. C'est que vous avez des modèles qui sont en face de vous et on dit, ah non, mais les jeunes, vous inquiétez pas. Mais les jeunes, s'il n'y a pas de tuteur à côté, il y aura un gros souci. Et aujourd'hui, malheureusement, ah mais nos jeunes, ils vont nous aider. Peut-être pas.
Les deux tuteurs, en fait, ça avait été Ronaldinho avec Messi et tout ça. Au début, quand il était sérieux. Et après, c'est Puyol, parce que Puyol, c'est l'un des plus âgeux.
Et
c'est, voilà, c'est ça, et qui était le capitaine, donc capitaine emblématique. Lui, comme tu dis, il a pris les jeunes sur ses épaules, qui ont pu grandir en prenant la pression sur lui.
On verra en fonction de qui sera choisi ou nommé comme entraîneur demain. Peut-être que ça sera un intérimaire, on ne le sait pas encore. On verra si l'avenir du FC Barcelone est un peu plus rieur. Mais le Barça n'a pas été le seul hier à mordre la pelouse.
Il a récupéré le ballon, Coman.
Bon, il y a 4-0, il faut bien tenter quelque chose.
Ouais, mais il va le rendre.
Et ça va passer Allez, encore, il n'y a pas hors-jeu.
Il n'y a pas hors-jeu.
C'est pas possible.
Attention, et but. Et but. Oh, la Manita, Brilhem Bolo. 5-0 pour le Borussia Mönchengladbach. C'est un Borussia Park. Le naufrage, le Bayern Munich. C'est le Titanic ce soir.
Le Titanic hier soir, on reconnaît tous la musique, une claque
une avarie,
en tout cas.
Une avarie.
Oui, oui, peut-être, pas un iceberg. 5-0, une manita, donc une main en pleine figure, une humiliation pour cette équipe allemande. Hier soir, on la voit quand même si sûr, on les appelle les ogres bavarois quand même, n'oublions pas. Alors hier soir, c'était un 16e de finale de Coupe d'Allemagne. Les hommes, en tout cas, de Julian Nagelsmann n'avaient pas grand-chose à dire à la fin de la partie. Écoutons Thomas Müller,
On s'est fait balader de A à Z pendant toute la première période. Je ne sais pas si j'ai déjà vécu ça avec le maillot du Bayern. Nous devons avant tout présenter nos excuses à nos supporters après cette prestation. Nous devrons réagir en professionnel, montrer un autre visage et évacuer tous ces moments pénibles d'ici le match contre l'Union Berlin samedi. Félicitations à Mönchengladbach et bonne chance pour la suite de la compétition.
C'est la classe.
Mais ça, c'est quand à une équipe, ça la réussit tout. C'est comme le match de Manchester contre Liverpool. Oui. Liverpool, il n'a pas fait un grand match. Il a réussi chaque fois qu'il est arrivé.
Justement, Carlos, je voulais vous demander.
Voilà, moi aussi.
Ils étaient à 3-0 à la mi-temps.
3-0,
hein, si
3-0 à la mi-temps, ouais.
Comment on peut couler comme ça, finalement? Parce que Neuer, tout d'un coup, devient
mauvais.
Devient mauvais.
Mais voilà. Oui, mais quand tu es sur le terrain, tu encaisses un. Même si tu es le Bayern, tu encaisses deux, tu encaisses trois. Et l'autre, il est plus fort que toi, il est plus fort que toi. Tu peux rien faire.
On peut pas réagir, c'est pas possible.
Et non, tu
à la mi-temps, on ne nous secoue pas?
Oui, mais tu sais quoi, quand tu rentres, tu es entre nous,
qu'est-ce qu'il dit, on parle.
Tu sais déjà que tu es sous l'eau déjà.
Non, mais non. Il y a des matchs comme ça, je te dis la vérité, quand tu as joué au football, il y a des matchs que tu réussis rien de tout. Et l'autre, il réussit tout, mais c'est vrai.
Même si on a des stars d'un côté.
Même si tu as tout ce que tu veux. Tu écoutes, j'ai pas regardé le match de Bayern hier, mais j'ai regardé celui de Liverpool et Manchester United. Tu rejoues 20 fois, ils vont pas finir comme ça. Il a tout réussi chaque fois qu'ils sont attaqués.
Ils ont tout réussi. Mönchengladbach, en gros, c'est ça. Ils attaquent, ils vont au bout de leurs actions, devant le but. Voilà.
Chaque fois qu'ils sont attaqués, ils sont marqués.
Pratiquement, ouais. Et c'est bien joué, par contre, hein,
Mais, Marc.
Moi, j'associe ça, donc j'ai fait à peu près 15 ans de carrière, ça m'est arrivé deux fois. Une fois à Lyon et une fois à Tours. J'en ai pris 8 et 7. Avec Marseille, 8.
7.
À la mi-temps, 7-0. Annie, quand je vous dis que, c'est-à-dire que j'ai fait 7 fois le centre en première période, je veux tirer là, le ballon il va là. Galtier il fait une tête, elle va dans le but. Ludo Juli monte à 2m50, tête décroisée. Gava il nous l'a fait à l'envers. C'est-à-dire qu'il y a des jours sans où vous savez que C'est-à-dire que des fois, on fait des petits jeux d'entraînement. Vous avez une équipe qui prend 5, 6, 7 buts. Vous êtes sous l'eau, vous n'y arrivez pas. Nous, on les taclait, on voulait leur faire mal aux joueurs de Lyon. On les ratait, on n'y arrivait pas. On voulait, je voulais mettre des coups de tête au mec, je l'ai manqué, je me suis fait mal. On en a pris 8.
Il y a des jeux que ça.
Mais ça m'est arrivé que deux fois, heureusement. Hein. J'avais pris 8 et 7 en deux fois. Et une fois avec le Gazélec à Tours. On y va, ouais, c'est super, on va, de toute façon, je joue la montée.
Qui est l'attaquant qui a joué un match, il a eu 5 occasions de but, il n'a pas marqué une. On a tous passé par là. Mm-hmm. Il y a des jours que ça ne rigole pas.
Ah ben, nous,
on l'a vécu collectivement. Ouais. Non, mais nous, l'histoire de Lyon, parce que tout le monde pensait qu'on avait fait exprès, parce qu'avec cette victoire, l'OL récupérait la coupe à l'Intertoto. Mais c'est-à-dire que là, il y a des Galtier, il y a des joueurs importants. On ne fait pas exprès, on n'y arrive pas. Mm. C'est-à-dire qu'il y a Échouafni, il y a Jambé, mais on n'y arrive pas. Mm. On prend l'eau et c'est un naufrage collectif. Et heureusement, des fois, il y a 2-3 joueurs, on peut ne pas être bon. Là, ben 11, il y avait Andras Kopke dans les buts qui prenait feu. À la mi-temps, il voulait sortir, il voulait partir. Mais on fait pas exprès, il pensait qu'on fait...
Juste une chose, Carlos, oui. On se souvient du 7-1 quand même au Brésil avec les Brésiliens. Mais et c'est pareil, on les voyait, l'impression qu'ils avaient envie de sortir du terrain.
Je vais te raconter simple en 30 secondes. 1974. On joue contre Paris Saint-Germain, l'intérieur c'était Fontaine, les arrières centraux c'était
Vous étiez à Reims à l'époque.
Oui, Jacky Novi, Éric Reynaud. D'accord ? Très bon défenseur tous les deux.
Oui, c'est vrai.
Bon.
Deux centraux de l'époque.
Bon, qu'est-ce qui se passe ? On est mené 1-0, je égalise un partout. Le match il finit la première mi-temps un partout. Deuxième mi-temps, à la minute des bords de Daleb, François Mpelé frappe traversal, il la récupère Bernard Lech, il me la donne au milieu de terrain, je marque le deuxième. Tu sais comment on a fini le match?
7-1.
6-1, j'ai marqué 6-1. Les 6 buts. J'ai marqué les 6 buts. 6 buts, ouais. On a fini 6-1, on a attaqué 6 fois.
Voilà. Tout vous réussissez
D'être mené 2-1, tu passes à mener 2-1. Après, les autres, ils ont commencé à jouer à l'attaque.
Et contre-attaque,
tu les plantes 4 encore. 6-1, j'ai marqué les 6 buts. Mais ça, c'est le hasard. Il y a des jours comme ça.
Il y a des jours comme ça. Bon. En tout cas, Thomas Müller, quand il disait je crois que j'ai jamais vécu ça, il l'avait jamais vécu la dernière fois.
Personne ne vit ça.
C'était historique pour le Bayern. Ouais. 1978, où ils avaient perdu 7-1 hein, avec 6 buts d'écart. Est-ce qu'il y a un point commun, selon vous? On a vu hier la Juve qui a perdu. Alors, elle, c'était en championnat. On a vu... avec un Marseillais, n'est-ce pas, Marc? Hein?
C'est un Marseillais. Petit Lopez.
Très beau petit Lopez.
Petit piqué.
Qui a crucifié les Bianconeri.
À la dernière minute,
hein, score 2-1 de Sassuolo. Ouais. Manchester City, quadruple vainqueur de cette Coupe de la Ligue anglaise.
Ça, c'est la Coupe de la Ligue.
Eux, ils sont éliminés en huitième de finale. Bon, c'est sur des tirs au but. C'est jamais les mêmes, ni les mêmes compétitions, ni les mêmes scénarios. Mais est-ce qu'il y a des soirs comme ça? Est-ce qu'il y a des points communs?
Je pense pareil. Qu'il y a des jours qui... Écoute, Manchester City ne peut pas perdre en coupe.
0-0, ils n'ont même pas marqué de but en plus.
Mais c'est pour c'est ça que Manchester City ne marque pas un but. Je ne l'ai pas vu le match, mais sûrement qu'il est arrivé à créer 15 occasions de but. Ouais. Mais quand ça ne va pas, ça ne va pas.
Ouais. Bon. Ben voilà, en tout cas, c'était une drôle de soirée
comme
pour ces clubs.
Comme Benzema qui tire sur la barre, sur l'arrêt hier, ça finit à 0-0.
Voilà, aussi, hein, le Real. Alors, ils n'ont pas perdu, mais c'est vrai que ce n'était pas terrible non plus. Allez, il y avait un match en retard hier du championnat de France.
Pas de hors-jeu pour Guessant dans la surface, le centre pour Kouiri, le poteau, le but. Ça fait 1-0 pour les Niçois. La doublette d'attaque qu'on n'attendait pas forcément fait des miracles d'entrée de jeu face à l'Olympique de Marseille. Gerson bien fait, Milik qui laisse pour Payet. Payet qui va pouvoir enchaîner, que c'est beau. Un centre super, une feinte magnifique et une conclusion parfaite. L'OM qui revient, ça fait un partout grâce à Dimitri Payet. Il y aura bien un match nul, ce sont deux équipes qu'on savait très proches l'une de l'autre. Un partout entre Nice et l'Olympique de Marseille.
2 mois après le début de ce match resté inachevé, on se souvient, on en était resté à la 75e minute et alors Nice menait 1-0, match rejoué, Nice et l'OM en ont fini avec leur match en retard, mais ce match, eh bien, s'est terminé sur le score de 1-1 dans un stade neutre, puisque c'était à 3, dans un stade vide aussi, et ça, c'était moins drôle.
Faut pas rejouer les matchs. Je plaisante. Non, mais c'est vraiment triste, d'une tristesse.
Ça, on avait l'impression que tous les éléments étaient contre, effectivement, la tenue de ce match. En tout cas, bien, les deux équipes qui étaient, qui se suivaient sur le podium se suivent toujours à peu près à la même distance. Nice est troisième et Marseille quatrième avec un point d'écart. Est-ce que ces deux équipes ont perdu, Marc, l'occasion de faire le trou? Parce qu'il y a Lens qui est juste devant avec un point aussi. Ou est-ce que, bon, il fallait en finir et oublier un peu? On avait l'impression que les cœurs n'y étaient pas.
Bah, c'est difficile quand on voit le contexte. On replonge dans le huis clos. Match que les Niçois pensaient gagner. Bon, on sait les incidents qu'il y a eu. Après, je pense que le point est mérité sur l'ensemble de la rencontre. On a vu une première période à peu près cohérente du côté de Nice. En seconde période, ils n'ont pas joué. Du côté de Marseille, Payet qui met une frappe, il met un but. Et sur la seconde période, est-ce qu'ils peuvent espérer mieux au vu de la saison, qui nous explique qu'il y a un turnover très important du côté de Sampaoli? Je pensais que du côté niçois, avec leur victoire face à Lyon, je pense qu'il allait avoir un regain. Alors sur les premières demi-heures, je me dis bon, ben ils vont leur faire mal parce qu'on voit cette équipe de. Après, c'est vrai que Delors n'est pas là. Enfin,
ouais, Dolberg
n'est pas là. Enfin voilà, il y a des joueurs importants, mais à l'arrivée, je pense que ce point-là, ce point nul, résume bien un match qui était nul, quoi. C'est non, non, mais voilà.
Faut pas rejouer les matchs.
Vous vous rendez
ça,
compte que Dimitri Payet, heureusement qu'il est là, encore une fois, il a sauvé l'Olympique de Marseille sur la seule occasion. Et vous voyez que certains joueurs qui... Vous savez, quand on a parlé de City, quand City se permet de faire un turnover, Mahrez qui joue pas, De Bruyne qui joue pas, ok, c'est peut-être des très grands professionnels, même s'ils gagnent beaucoup d'argent, ils peuvent réagir. Là, Alvaro, on fait tout pour le conserver. Alvaro, il joue jamais. Donc, oh, tiens, tu vas jouer à 3? Ouais, mais c'est huis clos, mais j'en ai rien à faire. Je joue à huis clos.
À ma vie,
qui a, ouais, ma vie, avant sa blessure, c'était une des valeurs sûres la saison passée de l'Olympique de Marseille. Donc, à ce niveau-là, quand c'est pas Manchester City, on n'a pas le coach qui va bien, il les envoie au feu. Ouais. Il les envoie au feu, et puis après, il nous explique, ah, vous comprenez, je dois faire souffler. Rongier joue pas, quand Rongier joue pas, ben, c'est un autre visage. Quand Camara joue pas, c'est un autre visage.
Ouais, il y avait eu 5 changements.
Donc, ouais, 5 changements, et puis, donc, à l'arrivée, ça donne un point. Je pense que c'est un bon point, comme le point qu'ils ont pris face à Paris. C'est très, très bien pour Marseille.
Alors, face à Paris, sans doute, mais, Carlos, l'OM ne gagne plus en ce moment. Ils ont pas gagné à Rome. Alors, ils n'ont pas perdu. Ils n'ont pas gagné hier.
Je pense qu'il y a un petit problème quand tu fais tellement de changements.
Ouais.
C'est pas facile, à que ça tourne facilement.
Pour les joueurs.
Pour les joueurs, mais c'est sûr. Les automatismes, c'est pas facile à trouver tout de suite. Et si tu fais des changements tous les matchs.
Ils avaient eu 3 matchs importants en une semaine en plus.
Oui, mais ce sont des matchs. Tu es professionnel. Tu dois les jouer. Ce n'est pas la seule équipe qui joue 3 matchs en une semaine.
Charles Gamour, Nice. Nice, il manquait peut-être beaucoup de joueurs pour que cette équipe soit véritablement dangereuse hier. Plus dangereuse.
Oui, bien sûr. Bon, après, c'est pas mal, hein. Guesson.
Alors, il manquait des joueurs, j'explique, c'est parce que comme c'était un match de la troisième journée, certains, comme on dit, Delors ne pouvaient pas jouer puisqu'ils n'étaient pas dans l'effectif à l'époque.
Non, mais comme l'a dit Marc, après leur victoire contre Lyon, on a pensé qu'ils étaient sur l'autoroute, entre guillemets. En plus, ils n'ont pas de Coupe d'Europe à jouer, à la différence de Marseille. Et ça a tenu qu'une demi-heure. Et puis, non, mais l'impression générale que c'est le match qui tombe au milieu de nulle part. Déjà, géographiquement, à 3, on se retrouve à 3. Il n'y a pas de public au milieu de la semaine. Donc voilà. Dans l'histoire, en fait, quand même, c'est quand même Nice, si on avait arrêté le... qui menait 1-0 à la 75e minute, ils perdent 3 points et Marseille en gagnant. C'est la seule conclusion. Elle est mathématique, en fait. Après, pour le match, on va l'oublier.
Ouais. T'as raison, parce qu'il avait les 3 points.
Voilà.
Il avait les 3 points. Vous l'avez regardé, Yacine, aussi, ce match?
Oui. T'as kiffé, non?
Non. Non, pas forcément. Non, mais je pense surtout que, en fait, comme c'est un match qui arrivait un peu comme ça, rapidement, on a compris que un point pour les deux, ça les satisfaisait parce qu'ils restaient en course, ils se lâchaient pas l'un et l'autre, et ils restaient dans le haut du tableau. Donc, je pense qu'en fait, rapidement, ils se sont dit, ce soir, il n'y a rien d'autre à faire, on va rester comme ça et on va pas aller perdre le match. Peut-être que dans un autre contexte, sur une vraie journée, il y en a peut-être un qui tente un peu plus d'aller le gagner. Je pense que rapidement, ils se sont dit, bon, bah, un point au classement, on reste troisième, quatrième. Tout le monde est content et puis on passe à autre chose.
Mais sur l'équipe de Sampaoli, on a eu aucune certitude.
Oui, voilà.
Ça part dans tous les sens. Quand on voit la première période, on se dit, mais sur la seconde, ils vont se faire, enfin, ils marquent, mais c'est un miracle. Et puis la seconde, il se passe rien. Il y a 3 joueurs derrière, il y en a 4, il y en a 5, il n'en a plus que 3, il y en a 2. Ça part dans tous les sens. Et puis ça fait 1-1. On ne sait pas sur quel pied danser avec cet entraîneur. Et je pense que les joueurs sont très perturbés parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre le système de jeu. Vraiment. On le voit encore une fois. quand un joueur rentre, non, à deux, à trois, on voit les sept. Non, mais c'est un truc de fou. C'est-à-dire que c'est, on est à la 10e journée bientôt. Les mecs, ils rentrent,
12e,
ils savent pas.
12e, Marc.
Ouais, 12e journée. Mais ils en ont joué des matchs entre l'Europe et tout. Ils arrivent pas. Enfin, voilà. C'est, ouais, c'est l'Angleterre, excusez-moi.
On verra ce qui se passe au cours du week-end en Ligue 1 et place à notre invité et à un thème plus que porteur, les mots du football français.
Vous n'êtes plus noir, ni marron, ni jaune, ni rouge. Vous êtes tous verts. Vous êtes vert clair ou vert foncé. Est-ce que c'est compris ?
Chef, oui, chef !
Que vous dites à vos jeunes
Non, quand même pas.
Quand vous êtes devant Yacine. Alors Yacine Hamned, vous avez donc écrit ce livre, il vient d'être de paraître aux éditions Talent Sport, Les hors-jeux du football français. Vous aviez déjà écrit en 2015 Pourquoi le football français va dans le mur. Moi d'abord j'ai une question, est-ce que c'est un nouveau SOS, vous sortez un nouveau drapeau blanc disant au secours?
Oui, quand même, parce que je vois beaucoup de dysfonctionnements et de problèmes de comportement autour des terrains. Et je trouve que le football, alors déjà le football professionnel, il prend une dimension qui est un peu spéciale, qu'on est un peu plus vieux, mais le football de jeunes, je pense qu'il prend vraiment une mauvaise tournure.
Et que, alors on va voir si on peut le sauver ou pas. En tout cas, vous avez été éducateur, vous avez travaillé dans un club professionnel comme Evian Thonon Gaillard. Vous avez donc une vision sur le foot amateur et sur le foot professionnel. Est-ce que vous avez eu l'impression déjà que quand vous avez publié Pourquoi le foot français va dans le mur, vous étiez écouté ou est-ce qu'on vous a approché? Est-ce qu'on est venu vous solliciter en dehors des médias qui vous donnent la parole? Est-ce que vous avez été entendu par ces gens qui décident?
Non, parce que malheureusement, en France, quand on critique, alors on est soit jaloux, soit aigri. Et en fait, on n'écoute jamais vos propos, on s'occupe pas du fond de vos propos. C'est il critique, qu'est-ce qu'il a fait, c'est qui lui? Donc ça, c'est déjà, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'en fait, il y a des titres, comme le titre de champion du monde, en fait, qui viennent, soi-disant, vous contredire et en gros vous n'avez pas de leçon à donner. En fait, on prend les critiques comme une leçon alors que moi c'est pas du tout ce que je veux faire. Moi je détiens pas la vérité sur le football parce que déjà le football il y a pas de vérité et je détiens pas la solution magique. C'est juste que je dis attention, il y a des dysfonctionnements. Voilà comment ça se passe, voilà ce qui se passe réellement sur les terrains et pas juste la face cachée entre guillemets, le titre de champion du monde, on est les plus beaux, les plus forts. Pourquoi nos joueurs s'en vont très jeunes? Pourquoi nos joueurs vont jouer à l'étranger? Pourquoi nos jeunes se comportent de telle façon? Et en fait, on veut pas vous écouter parce qu'il y a pas de débat. Il y a pas de débat parce qu'on détient eux par contre à la fédération et à la DTN par exemple, ils détiennent la vérité. C'est comme sur l'histoire des formations d'entraîneurs. Vous pouvez pas débattre sur quelque chose. En France, c'est le résultat qui prime, le jeu ça nous intéresse pas, la façon de travailler ça nous intéresse pas, il y a que la victoire qui compte et en gros si vous gagnez vous êtes un bon entraîneur, si vous gagnez pas vous êtes un mauvais entraîneur et il y a pas de débat. Moi ce que je veux c'est qu'il y ait un débat, qu'on nous écoute, qu'on arrête aussi de dire par exemple que pour être entraîneur professionnel il faut avoir été ancien joueur professionnel, ce sont deux métiers totalement différents. Votre parcours professionnel en tant que joueur il peut vous aider dans certaines circonstances, mais c'est pas parce que vous avez été joueur professionnel que vous serez un très bon entraîneur au niveau professionnel, comme c'est pas parce que vous avez été qu'amateur que vous serez pas un très bon entraîneur. Mm-hmm. Voilà. En fait, il y a pas de débat. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est plus d'échanger, d'ouvrir le débat et de dire, OK, tiens, pourquoi ils nous alertent là-dessus? Mais on ne nous écoute pas.
Alors, vous travaillez dans l'Île-de-France, qui est connu comme étant le plus grand pourvoyeur du football français.
Le plus grand vivier du monde.
Le plus grand vivier du monde. Oui. La France, en plus, vend énormément de joueurs et presque s'en enorgueillit chaque année, le Brésil aussi. Oui. Vous dites, le foot amateur est en train de mourir. Or, le foot amateur, c'est la base, c'est là où on voit grandir les jeunes, c'est là où ils sont formés. Pourquoi est-il en train de mourir?
Alors, déjà donc, tous les joueurs professionnels, à une ou deux exceptions près, mais on va dire tous, sont passés par des petits clubs. Ils ont commencé dans des petits clubs.
Oui, mais
donc,
d'ailleurs, ils en parlent. On sait que Kylian Mbappé vient de Bondy. On sait que qui vient de Trappes, c'est Nicolas Anelka. Ouais, Anelka voilà. On
donc,
le sait.
On a tous commencé. Ils ont tous commencé.
Marc, il vient d'un petit club aussi, je suis sûr.
De la Palace, un petit quartier à côté de Toulon.
Voilà. Et Carlos, lui, c'était Vélez, hein, c'est ça.
Vélez.
Vélez, en Argentine.
Ils ont tous commencé.
À Buenos Aires.
Bah oui. Ils ont tous commencé dans des petits clubs amateurs. Ouais. Donc, c'est le vivier, il est là. Et effectivement, il est en train de mourir. Alors, il y a eu la crise aussi qui est venue ajouter parce qu'aujourd'hui, trouver des sponsors pour financer, parce qu'il faut quand même donner quelques indemnités aux éducateurs, etc. Trouver du matériel. Ça, ça coûte de l'argent.
Ballons, et ça,
c'est
et tout
un,
ça.
Voilà, mm-hmm. ça, c'est compliqué. Mais il est en train de mourir parce qu'en fait, on a à notre tête une fédération qui ne s'occupe pas du football amateur, qui s'occupe que de l'équipe de France. Et je rappelle que, premièrement, la Fédération française de football est a une délégation de service public. Et ça, on l'oublie trop facilement. C'est pas juste la fédération de l'équipe de France. Et pourtant, on a un président qu'on a l'impression qu'il s'occupe que de l'équipe de France. Il y a à peu près 15 000 clubs amateurs en France. Il y a 45 clubs professionnels. Donc, vous en retirez 45. Il reste 15 000 clubs à s'occuper. Et on a l'impression que tout le monde s'en fout à partir du moment où on sort quelques joueurs qui viennent de là. On va vous raconter les belles histoires, voilà, Kylian Mbappé, le fameux gamin de Bondy. Mais on oublie, un, ce que sont les footballs amateurs, leur première mission, et aussi toutes les histoires qui se terminent mal. Des gamins qui vont en centre de formation et qui sont à la fin de la formation éjectés, qui arrêtent le foot parce qu'ils sont dégoûtés, on ne s'occupe pas d'eux. Voilà, donc c'est trop facile de toujours montrer le beau côté du football.
Vous dites dans le livre qu'il y a 0,03 joueurs qui arrivent à être un Kylian Mbappé ou un Thomas Müller ou un Lucas Hernandez ou je ne sais pas quoi. Aujourd'hui, justement, dans le journal L'Équipe, il y a les légendes du sport français qui s'expriment, et notamment Michel Platini qui dit cette phrase. Il raconte qu'il est venu au football pour le jeu et pour les copains. Et vous racontez que cette ambiance de copains n'existe plus autour des stades. Des stades pour les gamins, hein, c'est-à-dire pour les 10, 12, 14 ans. Ils viennent plus, ils se connaissent pas, ils ne vont plus au vestiaire ensemble, pratiquement, ils ne se douchent plus ensemble. Pourquoi ? D'où ça vient ?
Cette mauvaise ambiance ? Il y a deux choses. La première, c'est que ce sont devenus des consommateurs du football. Voilà, on vient à l'entraînement habillé, on s'entraîne et on s'en va. On a fait notre travail, entre guillemets.
Tu parles des enfants, là ?
Oui, oui. Oui. Okay, ouais, et la deuxième chose, c'est que, en fait, comme chaque enfant aujourd'hui est amené au foot, pour ce que ça va rapporter. Et c'est là le problème.
Pour le statut social.
Mais bien sûr.
Plus pour le
Donc,
jeu.
Chaque partenaire devient un concurrent. Mais dès le plus jeune âge. Et donc, on vient plus au football pour se faire plaisir avec ses copains.
Tu l'as observé, ça ?
Bien sûr, okay, je l'observe. Okay. Et d'ailleurs, il y a une autre chose sur l'histoire des copains. Très jeune, on joue normalement dans sa ville. Donc on va à l'école avec les enfants ou les copains qui sont avec nous dans le club. Aujourd'hui, les gamins changent de club à 8 ans, à 9 ans. Mmh. On vient les chercher pour aller dans le plus gros club du secteur. Donc ils jouent déjà avec des enfants qui sont pas avec eux à l'école. Donc il y a pas d'affinité, ils viennent, c'est leur copain pendant une heure et demie, ils jouent au foot et ils s'en vont. Il y a pas d'échange. Nous avant quand on jouait alors c'était poussin, c'était pas les mêmes catégories mais on va dire 8, 9, on était à l'école
poussin,
primaire.
Pupille, cadet.
Voilà. Et ben le lundi matin, on parlait de notre match parce que il y avait peut-être 7 ou 8 sur 10 joueurs qui étaient avec nous à l'école. Aujourd'hui, non. Il y a, par exemple, je vais prendre les secteurs que je connais, parce qu'en plus, je connais les clubs. À Montrouge, vous avez des petites Bagneux, des petites Cachan, des petites Arcueil, des petites Vanves. Mais en fait, donc, chacun est dans une école, et il se revoit que le jour de l'entraînement, enfin, au moment de l'entraînement. Donc, effectivement, il n'y a plus cette connexion déjà dans les catégories. Et comme je disais avant, moi, et je suis pas le seul exemple, parce que c'est pour après des échanges, quand j'étais pupille, je connaissais les minimes et les cadets de mon club. C'était un peu nos idoles, les grands. Aujourd'hui, si je demande à mes petits U11, cite-moi 5 joueurs U13, mais je sais qu'ils vont pas me les citer. À part s'il y a le grand frère, ils vont pas me les citer parce qu'en fait, ça ne les intéresse pas ce qui se passe dans le club.
Et Marc, on parlait, Yacine en parle pas mal dans son livre, de l'entourage aussi, de cette ambiance délétère qu'il y a pendant les matchs où les parents veulent tout de suite qu'on remarque leurs enfants, que certains entraîneurs se disent « j'ai trouvé une pépite et pourquoi pas être son agent ou n'importe quoi ».
Les arbitres en fin de match, je l'ai vu il y a trois semaines.
Les arbitres, c'est terrible.
Devant les mômes.
Vous en êtes aperçu aussi en allant simplement voir jouer vos enfants.
Ah oui, puis moi, les deux sont passés par centre de formation et malheureusement pour eux, ils n'ont pas réussi. Bon, il y en a un, il a fait le choix délibéré de partir du système, Lucas, parce que ça ne l'intéressait pas et c'était pas très évolué. Et Léo a tenté jusque le coup et c'est le petit Lopez et Camara qui ont signé et pas lui. Donc aujourd'hui, il est très heureux dans sa vie, il travaille dans une boutique et il joue en amateur. Ce week-end, je suis allé voir un match, on en a parlé, c'est d'une tristesse absolue parce que ces gens de la Fédé, de la Ligue ne se déplacent jamais. Ils ne connaissent rien, ils sont au courant de rien. Mais la question la plus importante, vous l'avez dit tous les deux dès le départ. Annie, vous avez dit quoi? On achète des jeunes. C'est quoi de l'esclavage, de la traite, c'est quoi? On achète des jeunes.
Mais pratiquement.
Vous, Mais Annie, on va pas rappeler que certains joueurs
en
de...
En les faisant changer de club, justement.
Allez, on va pas dire les clubs, mais certains grands clubs de Ligue 1, payés papa, ah maman est séparée, attends, je paye la maman. Tonton, il a une... Je paye tonton. Mais vous rendez compte, et ça c'était
les attirer dans un club.
15-20 ans. C'est parce que soi-disant, on va miser sur un cheval. Non mais c'est pas possible. Ouais. Quand on arrive à ce niveau-là, eh ben aujourd'hui, et ça c'était début 2000 que ça a démarré ce genre de choses. Parce que 98, champion du monde, 2000, là j'y étais, cette époque-là, là, c'était ça. On était les meilleurs du monde. Mais meilleurs de quoi? Il n'y a rien qui a évolué, il n'y a rien qui a changé. Et aujourd'hui on nous dit, oui mais les gamins, alors nous maintenant on est morts. Hein, c'est Mbappé, et Mbappé c'est la référence. Mais il y a des milliers de jeunes il y a des jeunes qui ont 20 ans qui se suicident, Annie. Et ça, la Fédé, ils en ont rien à foutre. Parce qu'il a pas réussi, parce que les parents pensaient, parce que il a espéré.
On les a poussés dans un système. Ouais. Mais de toute façon, là, Michel Platini dit aussi, c'est pas sûr que j'aurais été à 10 ans dans un centre de formation.
Mais c'était pas possible à l'époque.
Mais oui,
on
pouvait
pas,
c'est ça.
C'est pas possible.
Que Messi, il était amené en 1998. Mmh. Il avait 10 ans.
10 ou 12 ans, ouais.
10, 11 ans. 98.
À la Masia.
C'est incroyable. Mmh. Déjà, ils sont allés le chercher, ils ont travaillé à son père, et ils font bon.
Ils ont misé sur le bon cheval.
Ouais. Ouais, mais bon.
Ouais. Yacine, une autre chose, justement, c'est cet entourage. Est-ce que justement ça dessert finalement la formation? Parce que vous dites que, et alors là, vous prenez comme exemple le plus grand club de la région Île-de-France, c'est-à-dire le Paris Saint-Germain. Il écrase un peu tout. Il se fait aussi piller parce que finalement, il ne fait pas trop attention aux entrées et sorties de gens qui viennent voir jouer les catégories de jeunes et donc certains agents ou ceux qui prétendent l'être. Mais surtout, par exemple, vous dites qu'il n'y a même pas de style de jeu qui est inculqué de la DTN jusqu'ailleurs. En gros, il n'y a pas de style français.
Non, parce que le style français, c'est la victoire. Il n'y a que ça qui compte. Ben, c'est vrai.
Il n'y a pas que en France, peut-être.
Non, mais en fait, dans d'autres pays, on a une idée de la formation, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des étapes. Pour former un joueur, ça demande beaucoup de choses. Je trouve, aujourd'hui, par exemple, ce qui se fait à l'Ajax, c'est peut-être l'idéal dans l'idée qu'on a de la formation, à savoir qu'un gamin il va jouer à plusieurs postes parce qu'il a besoin de voir plusieurs choses. Vous pouvez pas prendre un enfant et lui dire toi tu vas être ailier droit de 8 ans jusqu'à 18 ans parce que c'est pas possible. Vous devez lui apprendre à se positionner différemment sur le terrain, à comprendre le jeu, peut-être à jouer latéral droit aussi pour se dire tiens comment un ailier droit il réfléchit, comment je réfléchis par rapport à voilà. Il y a plein de choses dans la formation. Ouais. C'est comme à l'école. Mm-hmm. Il y a des étapes. Nous aujourd'hui dans le foot, non, on veut griller toutes les étapes. On voit un joueur qui a du talent et on va pousser jusqu'au bout ce talent sans le développer. Et puis en fait, après, le pire, c'est que ces mêmes éducateurs, alors je donne un exemple dans le livre et je vais en reparler là, par exemple sur la première touche de balle, pour être un peu technique, un joueur qui sait s'orienter tout de suite sur la première touche de balle. S'il n'a pas cette première touche de balle, mais qui va très vite, il va compenser par sa vitesse. L'éducateur, il va se servir de sa vitesse pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et puis à la fin des 4 ans, il va lui dire, je peux pas le garder parce que sur sa première touche de balle, il sait pas s'orienter. Mais qu'est-ce que t'as fait pendant 4 ans avec lui pour pas lui qu'il comprenne? Bah, c'est ton travail, ça. Mmh. Voilà. Et on a des éducateurs, en fait, qui sont que dans les cris. Ils font que crier après les joueurs, applique-toi, c'est pas bien, ils sortent un joueur qui rate une passe, mais en fait le gamin il a besoin de faire des erreurs aussi pour apprendre. Voilà, donc tout ça, c'est ce qu'on fait pas parce qu'on est dans le résultat tout le temps.
Je vais poser une question très précise, après j'ai pas la réponse. Prenons Mbappé. Il est pétri de qualité, il est extraordinaire, mais on a l'impression qu'il est pas tout à fait fini d'un point de vue technique. Et d'un point de vue tactique, comment dire,
intelligence de jeu, je vais dire.
Voilà,
bien sûr, il y en manque.
Mais pourquoi?
Alors, voilà. Premièrement, est-ce que tu es d'accord? Et deuxièmement, oui. Ça vient d'où?
Bien sûr, ça vient du fait que comme il était rapide, tout jeune, comme il le dit très bien dans une interview, il dit un match où j'étais pas bon, mon entraîneur il m'a un peu bousculé, j'ai pris le ballon, hop, 3 buts. Ok, super. Mais c'est pas ça le foot. C'est pas ça la formation. La formation, c'est que justement, Mbappé avec sa vitesse, qu'est-ce que moi je peux faire? Thierry Henry en avait parlé justement à l'INF, parce qu'à Clairefontaine, il formait justement un peu différemment. Et il explique que dans un match où lui, il allait très vite, son coach de l'époque, la Francisco Filho, lui avait dit, aujourd'hui, tu te débrouilles, je veux pas que tu passes ton adversaire avec ta vitesse. Donc tu te débrouilles avec la passe, avec des déplacements. Voilà, c'est ça la formation. Mais dire à Mbappé, continue. Toi, on te met les ballons, tu vas vite, tu vas marquer. Mais après, faut pas s'étonner que le joueur en fin de formation, il lui manque l'intelligence pour se déplacer et qu'il sache faire, en fait, en gros, très bien, mais qu'une seule chose. Voilà.
Ouais, ouais. C'est-à-dire la vitesse et prendre de vitesse.
Comme a joué l'équipe de France sur la Coupe du Monde, on balance par-dessus. Kylian va super vite, il fait la différence. Premier but qu'il marque en Ligue des Champions.
Et on s'en fout sur Giroud.
Mais voilà. On en parle beaucoup de ça. Alors, peut-être la lumière dans le tunnel de votre livre, parce que évidemment l'heure passe vite. Il y a des solutions que vous avancez. Quelles sont les solutions que vous avez, qui seraient faciles à adapter rapidement, je dirais, si on vous écoutait sur l'antenne du RFI ou ailleurs où on vous invite.
2022, élection présidentielle.
Très vite déjà, ce serait pour moi la principale, c'est d'arrêter de laisser les clubs recruter 10, 15, 20, 30 joueurs tous les ans.
Comme le font Manchester City.
Alors, il y a les clubs professionnels, mais même les clubs amateurs. C'est-à-dire que les bons clubs de chaque secteur...
Déjà, ils ont des bancs, on le sait, en tant que professionnels.
Mais même les clubs amateurs qui sont dans les secteurs un peu renommés, ils viennent et ils prennent les meilleurs des alentours, ils prennent 18 joueurs. Mais ils savent très bien que le week-end, ils ont le droit à 6 nouveaux joueurs sur le terrain, sur la feuille de match. Donc, ça veut dire que, consciemment, ils savent qu'il y a 12 joueurs qui vont rester chez eux tous les samedis. Mais à un moment donné, la fédération, si réellement elle faisait son travail, elle dirait « Ok, vous avez le droit à 6 nouveaux joueurs. Eh ben vous avez le droit à 6 nouveaux joueurs sur la feuille de match. Eh ben vous avez le droit à 6 nouveaux joueurs recrutés. Au-delà, vous laissez les gamins jouer dans leur club. Ailleurs. S'ils progressent, vous les récupérez après, etc. » Ça, c'est la base de tout. Mais la fédération, elle veut rien faire.
Il n'y a pas de limite dans le recrutement.
Non. Vous n'avez pas le droit de faire jouer plus de 6 joueurs pendant le match, 6 nouveaux. Mais vous pouvez recruter 30 joueurs si vous voulez. Ouais. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que il faut arrêter en fait de dire aux éducateurs qu'ils sont, ça c'est pour les clubs, c'est humainement, qu'ils ne sont jugés que sur le résultat. Voilà, moi je suis responsable technique, je vais voir mes équipes jouer, j'échange avec mes éducateurs, et quand je pose la question à un éducateur parce qu'ils sont en déplacement, j'ai pas pu voir le match, je lui dis jamais combien t'as fait. Je lui dis comment ça s'est passé, et c'est toute la différence. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est pas qu'ils me disent on a gagné 3, on a perdu 3, c'est où est-ce que t'en es dans ce qu'on a mis en place, qu'est-ce qu'ils ont pas compris, qu'est-ce qu'on doit encore améliorer cette semaine, etc. Mais juste me dire j'ai gagné 3 ou j'ai perdu 3. Mais moi je peux rien y faire, ça veut dire que...
Qui est le responsable de la direction technique?
Hubert Fournier.
Il n'y a pas une ligne qui descend pour
Non, parce
tous.
Que pour avoir échangé avec la DTN régulièrement, notamment dans certains médias où ils étaient là, on nous dit tout de suite, les clubs, c'est des entités privées, on peut rien faire. Voilà, ça c'est leur, ils se défaussent comme ça, on peut rien faire, ils font ce qu'ils veulent.
La défense.
Pas les lignes actives.
Mais c'est alors que l'Allemagne a mis en place quelque chose avec ses clubs. C'est-à-dire que le championnat allemand, s'il est comme ça aujourd'hui, c'est parce que entre 98 et 2000, ils se sont réformés en disant, voilà le cahier des charges des clubs, vous adhérez pas. Vous êtes obligés et vous faites comme ça. Ils ont créé un championnat spectaculaire, etc. Et aujourd'hui, malgré leurs résultats,
il y a eu un vrai travail pensé de haut en bas.
Et malgré leurs résultats, ils sont encore en train d'évoluer sur comment on peut encore améliorer notre formation. Nous, on n'est pas dans ces débats-là.
Mais c'est marrant ce que tu dis, Yacine, parce que c'est la première chose que Cruyff a fait quand il est arrivé à l'Ajax dans les années 80. Les premières choses, tu sais, quand on l'a nommé entraîneur, il est allé voir les équipes de jeunes.
Bien sûr.
Et en fait, il a voulu un récapitulatif et tout. Et la première chose qu'il a vue, c'est les entraîneurs qui ne fonctionnaient qu'au résultat. Il a dit, cela, j'en veux pas.
Voilà. Et à l'Ajax, justement, pour un peu essayer de mettre ça de côté, qu'est-ce qu'ils font? Ben, en fait, ils changent les éducateurs deux fois dans la saison. Parce qu'en fait, quand vous êtes avec vos U14 et que vous savez qu'au mois de décembre, vous allez passer avec les U16, vous êtes moins pris par le résultat. Vous êtes là pour développer des joueurs et pas pour dire « faut que je finisse premier absolument », etc. Donc voilà, ils ont créé des choses. Je dis pas que l'Ajax, c'est tout est parfait.
Oui, mais en tout cas, ça peut être une ligne directrice.
Bien sûr, il y a des idées à prendre.
Quand plus petit tu es comme au club, tu vas essayer de le former mieux.
Eh oui.
Ici, c'est lui, l'équipe qui formait mieux, c'était Auxerre. Il a sorti des très grands joueurs. Aujourd'hui, tu étais champion d'Europe.
Mais Giroud, il avait un œil sur les équipes de jeunes aussi. Hein.
Tu allais voir jouer les gamins des 10 ans.
Ouais. 4-3-3.
Ils jouaient 4-3-3, et comme l'Ajax. L'Ajax, ils jouaient 4-3-3. Les petits, les moyens et les grands.
Mais Giroud, il allait voir les matchs des poussins, des pupilles, des cadets. Hein. C'était son boulot. Hein.
C'est une implication.
Yacine, je suis désolée, c'est déjà terminé.
Non, mais c'est un plaisir.
Mais il faudra revenir parce qu'il y a plein de solutions dans votre livre et je suis sûre et j'espère que ça sera lu en haut lieu. Merci beaucoup, Yacine Hamned. Et votre livre, Les hors-jeux du football français, on le mettra sur la page Facebook de l'émission. À demain, Café des Sports.
Ce samedi sur